Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Mais de résistance, Radio Galère 88.4 et Radio Mono à Châlons-en-Champagne. Nous entamons une nouvelle émission de Mais de résistance. Nous allons aujourd'hui parler un petit peu d'économie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'économie. Surtout d'agriculture. Dernièrement, j'ai lu un article dans Mediapart sur les politiques économiques à venir. C'est un article qui parlait des politiques fiscales redistributives. Effectivement, actuellement, on sait qu'en France, on a un PIB qui a beaucoup diminué, que les recettes aussi bien des entreprises que des ménages ainsi que de l'État ont beaucoup diminué aussi. Donc il y a plein de nouvelles mesures qui vont être prises. L'article de Mediapart est très intéressant parce que il nous donne des idées sur ce que pourrait en quoi pourraient consister les enjeux de demain sur le plan des politiques fiscales pour justement remonter un petit peu l'économie française. On sait qu'il y a un plan de relance qui a été mis en place avec 100 milliards d'euros qui seront dédiés spécifiquement à la relance après le confinement. L'article dont je vous parle de Mediapart est sorti le 1er février 2021. Et c'est un article qui nous parle de la crise économique en cours et des trois défis auxquels nous sommes confrontés. D'abord, une augmentation des inégalités, des indices boursiers qui font planer la menace d'une crise financière et puis d'importants niveaux d'endettement. Donc il y a un péril et il faudrait redécouvrir les vertus de politique fiscale redistributive. Et c'est Xavier Dupré, professeur d'économie politique, qui nous donne des idées. Donc, il nous donne des idées de mesures à prendre. Alors, bien entendu, ces idées de mesures, c'est une reconnexion à opérer avec la politique fiscale. Alors, ce qu'il préconise, c'est qu'on ait un régime, à nouveau des régimes fiscaux fortement redistributifs pour stabiliser le système financier. Donc, qu'est-ce que c'est une redistribution fiscale ? Eh bien, c'est quand on diminue les impôts pour les agents de l'économie, notamment les entreprises et les ménages. Mais il nous dit qu'il faudra en même temps des politiques de relance et de baisse des taux pour faire bénéficier l'économie réelle davantage que les marchés financiers. Bien entendu, s'il y a une hausse des taux, c'est les marchés financiers qui sont dépositaires des bienfaits de la mesure, puisque les taux sont le loyer de l'argent. Donc ceux qui ont investi et qui ont épargné, et ceux qui ont investi dans des actions en bourse, par exemple, ou des obligations d'entreprise, seront davantage rémunérés que les ménages et les entreprises qui, elles, sont rémunérées principalement par rapport à l'activité productive. C'est ce que l'auteur de l'article, Xavier Dupré, appelle l'économie réelle. L'économie réelle, c'est l'économie de base, c'est-à-dire celle de la production et de la consommation. Donc, il préconise donc de vigoureuses politiques de redistribution en faisant diminuer l'attrait des épargnants pour le risque, et en rendant disponibles des canaux additionnels de crédit pour d'autres acteurs que la finance. Et par exemple, il donne l'exemple de ce qui se passe en Belgique, où il y a un cadastre des patrimoines en vue d'un impôt sur la fortune. Donc ça, c'est de la politique de redistribution fiscale, parce qu'on taxe en priorité ceux qui ont un patrimoine. Xavier Dupré nous dit qu'il faut abandonner les rentiers pendant quelques temps. C'est indispensable, et de façon à ce que ceux-ci soient plus ponctionnés sur le plan fiscal. Et en même temps, concomitamment à cette mesure, ce type de mesure, il faut moins taxer les ménages et les entreprises pour que les ménages consomment et pour que les entreprises puissent investir et produire. Et puis en même temps, il faut que ça se fasse avec une politique de relance par la demande, c'est-à-dire une politique qui vise à augmenter les prestations sociales peut-être et à diminuer les cotisations sociales, c'est-à-dire les cotisations patronales et les cotisations salariales. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas servi en France de politique de relance. Au début des années 80 et à la fin des années 70, l'État redistributeur était particulièrement fort et développé, puisque toute l'économie reposait sur l'idée keynésienne selon laquelle il fallait que l'État contribue à augmenter les revenus des ménages et des entreprises pour que celles-ci puissent investir. C'est le multiplicateur d'investissement de John Maynard Keynes. Donc, comment est-ce qu'on pratiquait ? Eh bien, d'abord par une politique de redistribution sociale assez complexe qui visait à permettre aux ménages d'avoir des revenus supplémentaires, des prestations. Ces prestations n'ont pas diminué dans les années qui ont suivi, dans les 20 et à 30 années qui ont suivi, bien entendu, puisque, au contraire, elles ont augmenté en valeur et en nombre à cause du chômage. Puisqu'on sait bien qu'on s'est enferré dans le chômage dans les années qui ont suivi. Un chômage qui est devenu structurel et qui est lié d'abord à la crise pétrolière, à l'augmentation brutale des prix du pétrole au début des années 70 et qui a créé une situation de dépendance où l'économie fonctionnait mal et où les profits des entreprises ont brutalement diminué. Ça a créé des crises et celles-ci ont donc dû licencier. Et puis ce chômage structurel ensuite ne s'est pas arrangé, il s'est au contraire aggravé avec l'augmentation de la mécanisation et des nouveaux moyens de produire nécessitant moins d'apports des ménages. Et puis comme on n'arrivait pas à diminuer les impôts des entreprises, beaucoup ont délocalisé, c'est-à-dire qu'elles sont allées s'installer sur d'autres territoires, ce qui fait qu'il y a eu des crises et des plans sociaux en France. Et ceci dans un contexte où, après les trois premières années de grâce, après l'élection présidentielle de François Mitterrand, il y a eu une dégradation des choses, puisque comme on voulait rentrer dans l'union économique et monétaire, il y avait eu le traité de Maastricht. Après, dans la perspective du traité de Maastricht de 1995, la France a resserré les boulons et a mené des politiques de rigueur pour pouvoir correspondre aux critères de Maastricht, qui notamment prévoyaient une inflation très peu d'inflation. Et elle prévoyait une certaine, de manière à garantir une certaine stabilité monétaire sur le modèle allemand, ainsi que des finances saines. Et des finances saines, ça voulait dire que l'État serrait les boulons au niveau de son budget et que donc il ne pouvait plus mener de politique redistributive et de politique de relance. Donc on a pris ces habitudes-là, ces habitudes de politique de rigueur, et puis on est arrivé petit à petit, le traité de Maastricht, c'est pas 95, c'est 1992. On est arrivé petit à petit à une situation où on a d'abord dû continuer à correspondre aux critères de l'Union européenne, notamment sous François Hollande dans le cadre de la mise en place de la politique de la PESC. Et puis après, donc il y a eu, parce que il y a eu plusieurs traités qui ont été votés au niveau européen, et puis des critères importants pour continuer à alimenter la stabilité de notre monnaie, de l'euro. Et puis, progressivement, on arrivait juste avant la mise en place juste avant qu'il y ait le Covid, on était arrivé en France à avoir des finances à peu près saines. Il y avait le grand plan d'investissement qui avait été mis en place, je me rappelle, juste après l'élection d'Emmanuel Macron. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu le Covid. Et donc, au moment où on commençait à avoir des finances saines, où les lois de finances devenaient un petit peu moins restrictives, et où en France, on commençait à envisager sérieusement de moderniser notre pays, parce qu'on commençait à en avoir les moyens, que s'est-il passé ? Eh bien, il s'est passé qu'il y a eu le confinement, et puis avec la fermeture de beaucoup d'entreprises, et l'État a dû... bien sûr, dépenser de l'argent pour d'abord le chômage partiel. On sait que pendant la période Covid, qui a commencé le 16 mars 2020 et qui continue encore aujourd'hui, beaucoup de gens sont retrouvés en chômage partiel et c'est l'État qui a tout financé. Donc ça, et puis après, il y a eu toutes les aides que l'État ou les collectivités locales ont dû apporter aux ménages et aux entreprises. Et parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas ouvert encore depuis le 13 mars, notamment les restaurants, notamment dans la restauration, notamment dans le secteur tertiaire, dans le secteur des services. Ça a été une véritable catastrophe. Donc c'est pour cette raison-là que qu'on doit aujourd'hui se remettre un peu en question. On était arrivé à quelque chose d'à peu près correct, et puis on était quand même en train de commencer à envisager d'avoir à nouveau une politique budgétaire et budgétaire en France et fiscale à peu près autonome. Et puis tout a été remis en question. Donc on a un déficit très important, les finances publiques ne sont pas saines à nouveau. Et on se retrouve donc confronté à ce nouvel enjeu, qui n'est pas un enjeu facile. Tout à l'heure, j'ai parlé des politiques monétaires qui avaient été menées sous François Hollande. Je parlais des nouveaux objectifs monétaires et de nouveaux traités qui avaient été signés. Notamment, il y avait un traité qui avait fait beaucoup de bruit. J'ai parlé de la PESC parce qu'il y avait plusieurs politiques qui se menaient au niveau européen. La PESC et la politique de sécurité commune fait partie de ces politiques qui ont visé à... qui ont entraîné chacun à se lancer dans... Chacun des États de l'Union européenne a se lancé dans encore davantage d'économies et encore davantage de restrictions budgétaires de façon à pouvoir suivre les politiques communes qui doivent être mises en place au sein de l'Union européenne. Et la PESC en faisait partie. Et donc, à cette époque-là, il y a des accords qui ont été signés. Et auxquelles la France a dû participer, qui ont encore davantage entraîné celle-ci dans la rigueur. monétaire. C'est l'époque où la Grèce ne peut plus suivre et où elle déclare faillite. C'est cette fameuse époque qui a été racontée par des films où ce pays-là ne peut plus suivre et où on l'oblige à faire un choix entre rester dans l'Union européenne ou se retrouver tout seul. Et puis finalement, on le sait, la Grèce finit par décider de rester à l'intérieur de l'Union européenne. Mais c'est très difficile pour elle parce que elle est obligée de suivre les directives menées imposées par l'Union européenne, et donc ça c'est très difficile pour un État lorsqu'il n'a pas la maîtrise de son budget de remonter sur le plan économique. On sait que la Grèce est un État qui a été complètement démantelé. Le patrimoine grec a été beaucoup acheté par des États étrangers qui en ont profité, puisque comme la Grèce ne pouvait pas suivre sur le plan budgétaire, ne pouvait pas suivre le reste de l'Union européenne, elle a dû vendre son patrimoine. Donc elle a perdu quelque part une grande partie de sa souveraineté. Voilà. Donc je continue. Je continue avec mon article. Donc on en est arrivé à une situation aujourd'hui où on est obligé de mener des politiques budgétaires. On sent qu'on va être obligé de mener des politiques budgétaires de relance. Donc il y a ce fameux plan de relance avec 100 milliards d'euros qui vont être lâchés pour remonter les entreprises, et puis tout l'argent qui a déjà été dépensé. Et j'ai écrit un article justement en réponse à cet article-là, cet article d'un économiste, un article qui est très intéressant parce que un article qui essaye de montrer que certes, nous devons nous lancer dans le plan de relance et que nous devons revenir à une politique fiscale redistributive ainsi qu'à des politiques de relance, mais sans tomber dans les écueils du début des années 80 et de la fin des années 70 qui ont littéralement vidé nos finances. Puisque je pense que ce trop de politique keynésienne dans les années 80, au début des années 80 et dans les années 70, a largement contribué à faire de notre économie quelque chose, une économie qui ne fonctionnait pas bien, parce que nous aurions dû faire plus attention à nos rentrées d'argent, à nos recettes. Et pour cela, il aurait fallu trouver d'autres portes de sortie pour les ménages, pour augmenter le revenu des ménages, que de leur donner que d'augmenter sans cesse les prestations sociales. Je veux dire que nous aurions dû d'abord trouver d'autres alternatives. Par exemple, en limitant la spéculation sur l'immobilier. Et puis également en taxant davantage les sociétés financières et les spéculateurs. Et puis nous aurions dû également penser à développer davantage l'économie de nos territoires. Ça aurait permis de créer de nouvelles entreprises. Ça aurait permis également de pallier aux délocalisations qui ont créé beaucoup de chômage, et ça nous aurait permis de bien prendre notre économie en main. Voilà. Quand il y a eu en 2012, j'en parlais tout à l'heure, les traités, de nouveaux traités qui ont suivi le traité de Maastricht. Puis le fameux traité de Lisbonne, je veux parler du pacte budgétaire européen, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, qui augmentait encore davantage les mécanismes de convergence de l'union économique et monétaire, dans la zone euro notamment, beaucoup de pays ont dû serrer la ceinture et ça a aggravé les choses. Je parlais de la Grèce tout à l'heure, ça a largement aggravé le problème des pays d'Europe du Sud. Aujourd'hui, on se retrouve dans un dilemme assez important puisque les différents États de l'Union européenne sont tous confrontés à la même problématique. On se demande comment on va s'en sortir. Et donc, nous, en France, on a fait une erreur que n'avaient pas fait les Allemands. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, dans les années 70-80, on a mis en place des politiques keynésiennes de relance par la demande pour relancer l'investissement et la demande des ménages. Mais on n'a pas anticipé d'abord les nombreuses délocalisations. On n'a pas anticipé la fuite vers les paradis fiscaux, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent qui n'est pas rentré dans notre porte-monnaie. Et puis, à l'inverse, on a essayé d'amuser un peu les ménages en leur versant des subventions. Et en leur, mais qui étaient des subventions souvent d'abord qui augmentaient encore davantage la précarité, ainsi que la possibilité pour les gens de ne pas travailler. Donc beaucoup se sont habitués à avoir des petits revenus et à continuer à percevoir des prestations sans forcément chercher du travail. C'est la problématique à laquelle se retrouve d'ailleurs confronté Emmanuel Macron quand il arrive à la présidence, puisque forcément le salaire minimum étant petit, beaucoup de gens préféraient percevoir des subventions plutôt que de travailler pour un salaire qui n'allait pas leur emporter beaucoup plus de revenus. Donc il y a eu ce phénomène-là aussi, ce qui fait que notre économie était déjà malade. Et puis elle était malade à l'époque du pacte budgétaire européen, le fameux TSCG, qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe dans un pays où le quart monde était déjà important et où beaucoup de gens sont retrouvés excédés parce qu'en plus, juste avant, il y avait eu la crise des subprimes de 2008 qui a mis en faillite beaucoup d'entreprises, qui donc a augmenté encore davantage les vagues de chômage et les rentrées d'argent dans les caisses de l'État. Et donc le pacte budgétaire européen est arrivé un peu comme une réponse à cette crise des subprimes. Il a été maladroit. Notamment, il a enfoncé les pays du Sud, dont nous, la France, faisions plus ou moins partie. Ça, il faut bien le reconnaître. Nous ne faisons pas partie des économies du Nord, nous faisons partie des économies du Sud. Même si, au sein des économies du Sud, nous faisons partie des économies les plus développées. Donc après, il y a donc eu François Hollande, et puis quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, on commençait déjà à se rendre compte que il convenait de percevoir l'économie autrement que quelque chose qui devait se réguler uniquement d'en haut par l'État, en maniant les grands indicateurs de conjoncture, par exemple l'inflation, le chômage, le niveau de l'État-providence. Et on s'est rendu compte, et la fiscalité, et on a donc commencé à développer des politiques territoriales d'économie. Et dans ce cadre-là, les actions du Conseil économique et social, le Conseil économique et social national, et qui se dispatche sur tout le territoire national et dans les régions via les CESER, Conseils économiques et sociaux et environnementaux des régions, ont joué un grand rôle. Et ils continuent encore à jouer un grand rôle. Et ils jouent un rôle important, notamment dans la relance. Puisque cette prise de conscience, qui est quand même un point positif, n'a cessé de croître au fur et à mesure que les caisses de l'État et que l'économie se démantelaient dans le cadre de la crise Covid. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est accepté par tous. Et notamment, il y a d'autres choses qui se sont développées, qui sont positives, c'est l'économie de proximité. Et notamment ça, en agriculture et en alimentation, on s'est rendu compte de plus en plus de l'importance de la souveraineté alimentaire d'un pays pour pouvoir survivre en cas de crise et même après la crise. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons pris conscience grâce au confinement qu'il peut être plus ou moins intéressant d'adopter des formes de gouvernance économique de nature protectionniste. Alors, c'est pas du protectionnisme à la Donald Trump, ni du protectionnisme qui vise à se limiter restreindre les allées venues aux frontières, bien entendu. C'est du protectionnisme, c'est une forme de protectionnisme naissant à la Friedrich List qui pourrait protéger les nouvelles entreprises, petites et moyennes entreprises, qui commencent de plus en plus à se développer et à faire l'objet de politiques de favoritisme sur les territoires. Et ça, c'est très important. Donc, je pense que c'est la nouvelle voie économique qui s'est déjà bien enclenchée, puisque au sein des régions, chacun travaille de manière très importante, de plus en plus importante, sur ce type de politique. Et donc voilà, c'est important de le comprendre, que le plan de relance doit absolument être accompagné par des mesures qui privilégient l'économie territoriale et notamment les petites et moyennes entreprises. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois et j'ai fait déjà plusieurs émissions dessus. Donc, je passerai à la suite de mon émission dans quelques minutes. Nous allons quand même maintenant passer à Sketch de Coluche, le délégué syndical.
Il y en a qui s'emmerdent avec du pognon, hein. Moi, j'en ai pas de pognon, mais je me suis bien emmerdé. Ben, c'est-à-dire, j'ai trouvé une combine, maintenant j'achète tout à crédit. Alors, c'est retenu sur ma paye. Il y a des fins de mois tellement je touche peu, je sais même pas si je bosse. Par exemple, là, je viens de m'acheter une maison de campagne, au bord de la mer. Bon, ça s'appelle comme ça, messieurs. Hein. Bon, alors, j'ai acheté à crédit, enfin, à côté de crédit, pas loin. Bon, j'ai pris en Normandie, hein, c'est ce qu'il y a de moins cher comme bord de mer. Hein. C'est pas ce qui fait de plus chaud. On a beaucoup exagéré à Normandie. Moi, je vois, je suis allé 3 fois en Normandie cet été, il n'y a pas neigé une seule fois. Bon, évidemment, et puis le climat est très sain pour celui qui supporte les bottes en caoutchouc. Et puis le mec qui est copain avec une grenouille, il l'emmène et elle est contente. En Normandie, il pleut un petit peu. Mais en France, il pleut partout un petit peu. Bon, en Normandie, il pleut un petit peu partout. Bon. Alors moi, déjà, dans la vie peinard, j'ai acheté une maison Merlin. Vous voyez, maison Merlin, cage à lapin. Bon. J'ai pris crédit personnalisé à long terme. Parce que chez Merlin, c'est le crédit qui est cher, c'est pas la maison. Hein. Ah ben quand on voit la maison, on dit c'est pas vrai, ça coûte pas ce prix-là. Hein. Ah ben non, vieux, c'est le crédit qui est cher. Oh, tu m'as fait peur. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on a fini de payer le crédit, si on pouvait le vendre, on serait plus de pognon qu'en vendant la maison. Hein. Alors, j'ai pris crédit personnalisé, c'est chacun le sien, à long terme. C'est-à-dire, c'est un prêt de loin. C'est-à-dire, moins tu peux payer, plus tu payes. C'est la formule Merlin, c'est pendant le crédit, tu répares ce qui s'écroule, et au bout de 15 ans, les ruines sont à toi. Bon. Oh, c'est calme. Alors déjà dans la vie pénard, alors maintenant au boulot, moi je suis syndiqué. Hein. Je suis syndiqué, je suis TAFO. Force ouvrière. Gardez vos forces, les ouvriers. C'est ce qu'il y a de mieux comme syndicat, FO. Hein. FO, c'est un syndicat qui est beau. FO, le syndicat qu'il vous faut. Parce que FO, c'est le mieux comme syndicat, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le plus petit. C'est celui qui fait le moins grève, donc on gagne plus. Et quand on est obligé, on l'a fait, parce que ça, ça se verrait. Mais c'est toujours nous qu'on reprend le boulot le plus vite. Hein. Vous savez, FO, c'est un petit syndicat qui est sur la corde raide. Hein. Parce que s'ils penchent trop du côté des ouvriers, les patrons payent plus. Et puis s'ils penchent trop du côté des patrons, ça va se voir que c'est eux qui payent. Et c'est pas le but de la manœuvre. Parce que vous comprenez, les syndicats, ils sont un peu dans une situation délicate. Je vais vous expliquer, des fois on dit, ah, syndicat est complice du pouvoir. Faut savoir déjà que pour 20 millions de travailleurs en France, il y a 2 millions de syndicats. Alors, faire la grève à 18 millions de mecs pas inscrits, c'est pas un problème. Mais leur faire reprendre le boulot quand les revendications n'ont pas abouti, c'est plus dur déjà. C'est en 68, les ouvriers de chez Renault, ils ont dit à Ségui, bah tiens, les accords de Grenelle, vous avez qu'à vous les tailler en pointe, et puis vous les tailler en pointe. Il peut pas, c'est un homme, il est tout rouge, il a déjà autre chose. Non, je sais pas, je dis ça, ou alors il se maquille avec un gant de crin. Bon, alors, si vous voulez, moi je suis à FO, je suis délégué syndical. J'arrive le matin, Chabane.
Voilà, c'était Michel Colucci avec un sketch déjà ancien qui nous rappelle une époque qui est aujourd'hui révolue, avec le sketch « Le délégué syndical ». Alors, pour en revenir à l'article que je citais tout à l'heure de Mediapart, je voulais juste dire que l'auteur établit un parallèle avec les aides aux entreprises et aux ménages octroyées par l'État, ainsi que les efforts fiscaux de ce dernier avec les politiques de relance par la demande keynésienne menées dans les années 80. Alors, au début, elles étaient de manière plus ponctuelle, puis alternative, au gré des conjonctures. Ces mesures qui étaient des mesures de stop and conjoncturelles, elles étaient un pied-aller. Elles permettaient de juguler les mécontentements et les dysfonctionnements relatifs à la mise en place en France d'un libéralisme économique. C'est parce que dans les années 80, il y a un libéralisme économique qui s'est mis en place. Ça a commencé par l'Angleterre et les États-Unis avec Thatcher et Reagan, et après ça s'est répandu notamment en Europe. Ces mesures de stop and go permettaient de calmer les indicateurs et surtout les mécontentements de manière ponctuelle lorsque les protestations se faisaient trop virulentes et les réactions sur la situation économique trop vives. Pauvreté, malnutrition, baisse des revenus, précarité, chômage, diminution des petites et moyennes entreprises. Il faut espérer que cette recrudescence de mesures régaliennes visant à favoriser la production et la consommation par l'apport de revenus supplémentaires ainsi que de liquidités va se faire cette fois-ci avec une logique plus réfléchie à long terme et aussi plus construite. Nous sommes actuellement à une frontière entre deux doxas économiques que l'on voudrait pouvoir qualifier de révolues. La première réside justement par cette régulation du marché par une politique de la demande sur l'investissement et la consommation pour relancer la croissance. À l'heure même où on conteste l'idée de croissance telle qu'elle a toujours existé jusqu'ici, il serait dommage de ne pas profiter de l'opportunité laissée à l'émergence d'une nouvelle vision de celle-ci, plus qualitative mais aussi et surtout plus territorialisée, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je voulais juste dire aussi, les politiques de stop and go en France, c'est pas les mêmes qu'aux États-Unis sous Reagan. Hein, attention, c'est des politiques de stop and go plus diluées, c'est-à-dire que ce sont des politiques conjoncturelles. De temps en temps, on activait la manette, on augmentait les dépenses de l'État, et puis après, on restreignait à nouveau. Hein, mais ça n'a pas jamais atteint le niveau de sous Reagan aux États-Unis. La période de confinement a renforcé ce qui était déjà en train d'émerger avant celle-ci, soit l'alimentation et la consommation de proximité. D'autre part, cette politique de relance d'un nouveau type prend des aspects qui paraissent plus ou moins marqués par la caractéristique première de la période de pandémie. Une période de crise profonde, assimilable à la suite d'une guerre avec nécessité de reconstruction, d'où d'ailleurs la pertinence du plan de relance. Avec des chèques spécifiques avec cadeaux des municipalités, des aides spécifiques au vélo, des remises fiscales, ou bien le recul des échéanciers pour les ménages, des primes spécifiques et du chômage partiel, ainsi que de nombreuses aides aux entreprises, notamment aux plus petites. Il ne faut donc pas croire à un futur fonctionnement par le budget de l'État. Il ne s'agit que de mesures très provisoires liées à un contexte lui aussi de crise provisoire et à caractère exceptionnel. C'est comme ça que je le vois. Donc, quand notre auteur du Mediapart parle d'une politique fiscale redistributive, je dis attention, oui, mais juste de manière très ponctuelle. Et il ne faut pas revenir à une politique où ce serait l'État qui relancerait systématiquement l'économie par des relances budgétaires. D'abord, il ne pourrait pas sur le plan financier. Et puis, on s'enfoncerait toujours davantage parce qu'il y aurait de moins en moins de ménages qui payeraient d'impôts et parce que les entreprises feraient de moins en moins de bénéfices. Donc, ça doit vraiment être très ponctuel. Et normalement, une économie qui fonctionne bien doit fonctionner sans être dépendante de l'État. Donc, j'espère que les mesures actuelles de redistribution, c'est la vérité, puisqu'on ne peut pas revenir en arrière sur toutes les remises en question qui ont été faites après, justement, qu'il y a eu l'échec des politiques redistributives des années 70, puis le resserrement avec des politiques de rigueur dans le cadre de la mise en place de l'union économique et monétaire, puis l'entrée dans la zone euro en 1999, puis à nouveau des remises en question visant à la fois à requalifier les dépenses de l'État en faveur de la redistribution et en même temps à voir notre économie autrement que pas comme un grand conglomérat de grandes entreprises dont les territoires dépendraient, mais une vision des territoires plus autonomes qui ont eux-mêmes leurs petites et moyennes entreprises et qui créent leur propre emploi. Donc c'est pour ça la priorité. Donc comme je le dis, il y a ici l'enjeu d'un nouveau fonctionnement qui est à réinventer. Les économistes hétérodoxes les plus raisonnables devraient profiter de cette opportunité pour s'engouffrer dans la fissure béante ici créée. Par exemple, des gens comme Thomas Piketty ou les partisans de réancrage territorial, comme indirectement inspiré de Karl Polanyi, celui qui a écrit La Grande Transformation en 1945, il était visionnaire, sans oublier tous les économistes du développement qui jusqu'ici ont été très peu écoutés par les sphères du politique. Et normalement, aujourd'hui, ces gens-là, les économistes du développement, sont des habitués de l'économie informelle. Ce sont des gens qui savent happer tous les embryons de relance économique par l'entreprise sur les territoires. Et ceux qui ont l'habitude de travailler avec les pays en développement savent ce que c'est qu'une économie informelle, c'est-à-dire une économie. Ce sont des économies qui s'engouffrent là où le système économique classique a laissé de la place. Il a laissé du vide, et comme la nature a horreur du vide, ben les gens, ils se débrouillent tout seuls. Donc c'est l'économie informelle, c'est l'économie système D. Or, de plus en plus aujourd'hui, on le voit avec l'émergence de nouveaux types de raisonnement économique, comme des économies alternatives, l'économie sociale et solidaire. Toutes ces économies-là sont des économies qui sont en train de se développer de manière insensible aujourd'hui pourrait se substituer au système économique toujours en place, c'est-à-dire qu'elles montent en puissance et elles aussi, elles créent de la richesse et il faut en tenir compte. C'est comme ça que les économistes du développement envisagent d'ailleurs le développement d'un territoire dans un pays du tiers-monde. Parce que souvent, la richesse se crée dans ces zones vide, laisser vide. Et ça, c'est très important. Donc ça, maintenant, on l'applique de plus en plus à l'économie française. Donc sur les territoires, en plus des petites et moyennes entreprises et de toutes les possibilités qu'il peut y avoir de développement économique, il y a un développement de l'économie informelle. Donc il faudrait réinventer également la notion de revenus supplémentaires et de revenus dédiés à la relance par l'investissement et à la consommation. parce que celle-ci ne réside pas entièrement dans l'enjeu lié à un apport substantiel et providentiel de grosses masses d'argent, par ailleurs créées de toutes pièces par l'action de la planche à billets. Or, comme on est dans l'Union européenne, de toute façon, on n'a pas la maîtrise de notre politique monétaire, elle n'est pas autonome, et donc on ne peut pas actionner la planche à billets et augmenter la création monétaire pour faire de la relance sur notre territoire, puisque de toute façon, on a la contrainte de l'union économique et monétaire. Donc ça, c'est pas possible. Et puis si on le faisait au niveau euro, au niveau européen, ça créerait de l'inflation. Or, la doxa de l'Union européenne en matière économique et monétaire, en matière monétaire, c'est d'abord et avant tout la stabilité monétaire. Donc hors de question d'augmenter l'inflation. Les Allemands ont très peur de l'inflation d'ailleurs, puisqu'ils en ont beaucoup souffert pendant la crise de 1933. Donc il faut, on ne peut pas non plus augmenter trop l'achat par l'État d'obligations d'entreprise par le quantitative easing, parce que des mesures non conventionnelles, parce que l'État d'abord n'aurait pas trop les moyens, et puis on ne peut pas envisager qu'une économie repose uniquement sur les dépenses de l'État. C'est une action beaucoup trop superfétatoire et ponctuelle pour être vraiment profitable à l'économie. Et les économistes du sous-développement, encore une fois, je le dis, si on veut s'en sortir, il faut d'abord écouter les économistes du sous-développement et considérer qu'on est dans un état en sous-développement, ou du moins en mal-développement. Et ces gens-là savent très bien à quel point, lorsque on agit, lorsque on dépense trop d'argent d'un coup, par exemple, lorsqu'une aide, un gros apport financier vient des pays tiers aider un État d'Afrique, eh ben ça aide pas du tout l'État d'Afrique à développer son économie. Parce que ce qui compte, c'est d'abord et avant tout qu'il y ait des entreprises, que les territoires se développent. Et souvent, cet argent est mal utilisé, ou alors il est souvent détourné, d'ailleurs, en Afrique, parce qu'on a des gouvernements qui ne sont pas toujours éthiques. Et puis, il est détourné ou mal utilisé, alors que, ou alors on sait très bien que lorsque trop d'argent arrive d'un coup sur un territoire, les gens sont moins motivés. Donc il faut commencer par le commencement, il faut commencer par développer nos territoires, développer l'économie informelle, et puis après on peut financer petit à petit. Donc cette action-là, qui est vraiment très nocive dans les États africains, par exemple, elle l'est aussi pour un État comme le nôtre, qui souffre moins de mal-développement qu'un État africain en sous-développement, certes, mais qui est sous-contraint et soumis aux mêmes lois. Donc hors de question, une fois que le plan de relance sera entamé, de trop faire appel à l'apport financier de l'État. Ce dernier ne doit intervenir que lorsqu'il y a vraiment des besoins importants pour développer encore davantage une mesure. On peut, comme solution, quelles sont les autres solutions que l'apport uniquement d'argent de l'État pour remonter notre économie? Eh bien, il y en a trois, selon moi. D'abord, il y a les aménités territoriales. Qu'est-ce que c'est, les aménités territoriales? C'est la mise en valeur des spécialités des territoires. Ça peut être des spécialités gastronomiques, ça peut être des spécialités textiles, ça peut être des spécialités à caractère environnemental, ça peut être la mise en valeur de l'environnement. C'est ce que Ricardo appelle les spécialités dans son ouvrage sur le commerce international. Donc, sauf que lui, David Ricardo, mettait en avant les spécialités par pays. Par exemple, entre le Portugal et l'Angleterre. Alors que là, je parle de spécialités par territoire. Et puis, il y a également, en mettant en avant les aménités territoriales, comme on l'a fait d'ailleurs, parce qu'on y était obligé pendant la crise Covid, en consommant davantage auprès des agriculteurs territoires, eh bien, on va enrichir les territoires et on va créer des entreprises et donc des emplois. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'économie informelle. J'en parlais tout à l'heure. Alors, l'économie informelle, elle est très importante en France. Il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a de l'économie informelle. Je disais, c'est système D. Effectivement, c'est un peu du système D. C'est une économie dont on ne tient pas compte dans les grands indicateurs nationaux comme le produit intérieur brut, le revenu national brut ou le produit national brut. Et pourtant, elle est très importante. Elle représente une création de valeur ajoutée. Que vont se partager les agents économiques qui sont concernés et qui va créer des revenus. Et donc, des fois, ces revenus ne sont pas forcément des revenus en argent. Ce sont des revenus en biens et services non marchands ou semi-marchands. C'est-à-dire des biens et services qui ne... C'est pour ça qu'ils ne sont pas comptabilisés. D'ailleurs, dans le PIB, ces biens et services non marchands ou semi-marchands sont par exemple produits par les milieux associatifs. Et les associations produisent beaucoup de biens et services marchands ou non marchands. Elles améliorent considérablement la vie des citoyens et on peut considérer pratiquement que c'est un deuxième revenu. Et donc, notamment d'ailleurs, il y a un problème au niveau des milieux associatifs, c'est qu'on dit souvent qu'on a du chômage. Mais les associations, qui souvent ont un rôle social et économique très important, certaines exercent même une mission de service public, eh bien, ces entités-là se servent de bénévoles pour fonctionner. Or, le bénévolat, c'est autant d'emplois qui ne sont pas rémunérés. Et alors que les gens qui travaillent bénévolement pourraient avoir pratiquement un salaire pour certains. Ou un demi-salaire, ou une partie de salaire. Donc je pense que parmi les mesures de relance économique, l'État français devrait peut-être penser à pérenniser les emplois associatifs, le bénévolat associatif, et faire en sorte que ce dernier puisse être rémunéré sous forme d'argent. Et de partie ou carrément de salaire. Certes, les associations emploient, il y a des emplois qui sont créés par les associations, mais on ne pense pas toujours à la puissance du bénévolat. Et ça, c'est très important. Et je pense que si l'État doit dépenser de l'argent pour le fonctionnement de l'économie, c'est peut-être d'abord et avant tout en finançant justement ces dépenses supplémentaires qui pourraient intervenir dans les milieux associatifs pour rémunérer les bénévoles et donc créer des emplois. Cela pourrait permettre de guérir le rapport offre-demande de travail, c'est-à-dire diminuer le chômage. Augmenter l'offre de travail qui deviendrait plus importante que la demande de travail, et donc le rapport serait inversé, les salaires augmenteraient et il y aurait davantage d'emplois rémunérés sur le marché du travail. Enfin, dans l'économie informelle, je mets aussi, bien entendu, tout ce qui concerne les revenus supplémentaires dont disposent les ménages et les entreprises et qui sont liés aux effets d'agglomération. C'est-à-dire que dans une agglomération, vous avez des associations, des entreprises et des administrations, ainsi que des banques et des organismes financiers qui sont voisins. Et donc, il y a des infrastructures qui sont créées. Souvent, elles sont financées par l'État pour les collectivités locales. Et tout ça, ça génère un revenu supplémentaire, tout simplement parce qu'à côté de chez nous, on a une grande cantine où on peut manger pour pas très cher. Ou alors tout simplement parce qu'il y a des garderies qui se développent dans les milieux d'entreprise. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des revenus liés à la rente d'agglomération. Ce sont des types de revenus qui n'existent pas dans les milieux ruraux et qui sont compensés dans les milieux ruraux par d'autres mécanismes plus traditionnels, comme par exemple l'entraide entre agriculteurs ou ce genre de choses. Et tout ça, c'est des revenus que souvent on ne comptabilise pas. On devrait pouvoir les comptabiliser dans le produit intérieur brut, tout comme l'économie informelle. Enfin, troisième source de revenus et d'activité économique, c'est la mise en avant de ce qu'on appelle les communs, un nouveau concept économique que l'on pourrait presque aller jusqu'à ériger en facteur de production, afin de modifier la fonction de production adéquate pour arriver à des perspectives aussi exponentialisantes, peut-être même davantage que le multiplicateur keynésien, qui lui n'est formé après tout que de sous, que d'argent. Or, l'argent n'a que la valeur qu'on veut bien lui donner, et en période d'inflation, par exemple, il ne vaut pas grand-chose. Donc, quand je dis en période d'inflation, je veux dire quand on actionne la planche à billets, il ne vaut pas grand-chose. Donc, sa présence est tout à fait, sa valeur est tout à fait relative. Alors que la valeur de biens et de services créés, dans le cadre, par exemple, d'une activité d'entreprise, d'un cluster au sein d'un territoire, ou de l'existence de communs, un parc qui octroie ses bienfaits naturels et écologiques à l'ensemble des ménages, crée de la vraie richesse et non pas uniquement des flux financiers. Donc ça, c'est d'abord à ça qu'on doit s'intéresser. Je crois que c'est ce qu'on est en train de comprendre, et notamment la crise du Covid, on était déjà en train de le comprendre avant la crise du Covid, et là, ça se renforce. Donc c'est pour dire que la relance budgétaire à la Keynes a été très intéressante à une époque où on avait intérêt à générer de la croissance pendant les 30 glorieuses. On avait besoin d'une avancée de nature civilisationnelle, il avait fallu reconstruire notre pays, et là l'enjeu c'était de pourvoir tous les ménages en biens et services plus modernes, notamment en matière d'hygiène, d'alimentation et d'accès aux biens durables et d'équipement, et en même temps qu'on modernisait nos entreprises et notre agriculture. Mais ce modèle là c'est le modèle d'une époque, et il n'est plus efficient aujourd'hui, donc il faut oublier ce modèle et d'autres voies de création de revenus permettant d'entrer dans les normes liées à une consommation qualitative, donc à l'environnement, sont à mettre en avant. Les communs en font partie, il faut maintenant en tenir compte, ils devraient d'ailleurs être constitutionnalisés. Les communs, ce sont ces biens et services qui appartiennent à tout le monde. Je pense aux infrastructures créées par l'État, un jardin d'enfants, mais également le bien-être écologique que peut apporter un jardin de ville ou un parc. Donc ils génèrent de nouveaux types de revenus qui sont comparables à ce que les économistes du territoire appellent la rente d'agglomération, et on pourrait presque inventer à côté de la rente d'agglomération comme revenu supplémentaire une rente écologique qui profiterait à tous et qu'on pourrait comptabiliser comme une autre forme de revenu. Comme le dit Thomas Piketty dans son livre « Capital et idéologie » qui est sorti en 2019, les communs ne sont rien d'autre qu'une nouvelle forme de capital accessible à tous et profitable à tous. Et là, ça prend le contre-pied d'un autre livre qui est plus ancien, qui date de 2013, « Le capital au XXIe siècle », où Thomas Piketty parlait de la manière dont le capital était inégalement réparti. Et dans ce livre-là, il parlait du capital uniquement sous sa forme financière ou patrimoniale, je veux dire en œuvre d'art, en actions boursières, en obligations ou en immobilier ou en immobilier, ou alors de la finance pure et dure. Il faisait ce constat-là, il disait que le capital était très inégalement réparti. Et puis après, il a rebondi en 2019 en écrivant « Capital et idéologie » pour montrer que le capital pouvait se définir autrement en tenant compte de l'existence des communs avec un C majuscule, et pour montrer qu'il y avait de nouvelles voies de partage des revenus qui s'ouvraient, de nouvelles perspectives qui s'ouvraient, et que donc il fallait envisager sérieusement, il fallait envisager très très sérieusement de tenir compte de ce type de revenus-là pour faire le constat d'un capital qui a changé de nature et de définition et qui est plus accessible à tous et qui donc est mieux partagé, de façon à ce que l'argent redevienne à nouveau un simple moyen d'échange et non pas un bien en soi. Et ça, c'est très important. C'est d'ailleurs c'est l'idée de retourner dans un système libéral. Là, on est anti-keynésien, hein, à nouveau. retourne dans un système libéral. Je n'ai rien contre John Maynard Keynes, qui avait de très bonnes idées sur le plan monétaire et financier, notamment pour réguler le système monétaire international. On aurait dû l'écouter à ce niveau-là. Mais par contre, sur le providentialisme d'État à tout prix, la relance par la consommation, la demande uniquement, ainsi que sur l'inégal, ainsi que l'idée que, selon laquelle l'argent est très important et est un bien en soi, je pense que il faut considérer que l'argent, c'est d'abord et avant tout un moyen d'échange et pas un bien en soi. Si on l'épargne, c'est pas parce que c'est un bien en soi, c'est comme le pensent les néoclassiques, et là je retombe dans la pensée économique traditionnelle, c'est alors que John Maynard Keynes apparaissait dans les années 40 comme un novateur, moi je reviens aux néoclassiques et je dis, comme eux, que l'argent est toujours un moyen d'échange, même si on ne le dépense pas tout de suite, parce que il représente, lorsqu'il est épargné, des échanges qui vont se faire dans le futur. Donc ce sont des échanges, c'est d'abord et avant tout un moyen d'échange, même dans le futur, et qu'on doit anticiper. Et donc ce n'est pas l'argent au départ, l'argent c'est juste donc ce qui permet d'échanger. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est la création de vraies richesses, des richesses qualitatives, et qui le deviennent de plus en plus. On l'a vu en agriculture, avec l'augmentation de l'agriculture bio et de l'agriculture de proximité, où nous devons avoir un échange de produits sains avec de la qualité. Voilà. Donc, justement, une telle conception prend en compte les richesses cachées des nations. On pourrait dès lors rêver une nouvelle richesse des nations qui pourrait laisser envisager l'émergence, cette fois-ci, de gains de transactions et de gains d'opportunités, montrant que les coûts de transactions et les coûts d'opportunités qui ont beaucoup marqué nos sociétés sur le plan collectif dans les années 80 et dans les années 90 peuvent se retourner et devenir des gains de transactions et des gains d'opportunités. Donc les gains de transaction, c'est lorsque, en produisant et en consommant, on crée des externalités négatives qui n'étaient pas prévues au départ. Celles-ci ont un coût, par exemple la pollution. Et les gains d'opportunité, c'est lorsque les coûts d'opportunité, pardon, c'est lorsque, en faisant un choix drastique, parce qu'on s'est retrouvé acculé à une situation qui fait qu'on est obligé de faire un choix au dernier moment, on perd des opportunités. Ça, c'est un coût, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité en économie. C'est calculé par les économistes. Et donc, on devrait pouvoir remplacer ces coûts par des gains de transactions et des gains d'opportunités sur le plan collectif. C'est le cas lorsqu'on met en avant les communs, par exemple, ou les rentes d'agglomération. Je rappellerai également que les territoires ruraux ne sont pas en reste. Eux, ils ont d'autres gains, même si il n'y a pas de rentes d'agglomération au milieu rural. D'abord, il y a d'autres moyens de créer des revenus accessoires. Je parlais de l'entraide tout à l'heure entre villageois, mais également d'autres facilités qui ne sont pas données aux gens qui habitent en ville et qui le sont aux gens qui habitent dans les territoires ruraux. Et puis, je parlais également des rentes d'agglomération et du rapprochement entre territoires ruraux et territoires urbains, qui dévoile des cas où les richesses d'agglomération profitent aussi aux territoires ruraux, ne serait-ce que quand les agriculteurs viennent vendre au marché bio et qu'ils ont toutes les infrastructures pour en ville. Ça, c'est très important aussi. Donc, je persiste à dire que nous sommes dans un tournant de la théorie économique et aussi de la pratique économique. Donc, hors de question qu'on choisisse des solutions qui privilégieraient les recours aux marchés financiers en autorisant les banques à prêter aux entreprises et en les laissant vendre des droits et des titres à des organismes financiers ou assurantiels privés, ce serait un suicide collectif. Il faut saisir l'opportunité qu'on a de développer l'économie informelle et de développer l'économie des territoires. comme l'ont fait certains grands chefs d'État, comme le général de Gaulle, comme Hugo Chavez ou comme Thomas Sankara, de façon à pouvoir développer notre économie réelle avant tout, et surtout, surtout, ne pas tomber dans les mauvaises solutions qui consisteraient, par exemple, c'est ce que j'ai entendu dernièrement, à laisser les sociétés financières prendre la main sur nos économies, par exemple, en les laissant financer notre économie parce qu'elles, elles ont les moyens. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis, chers auditeurs et chères auditrices, à la semaine prochaine. Au revoir.